Un colloque dédié au géologue et paléontologue Joachim Barrande était organisé mardi à l'Institut français de Prague à l'occasion des 210 ans de sa naissance. Originaire du petit village de Saugues en Haute-Loire, Joachim Barrande, né en 1899, a passé près de 50 ans de sa vie en Bohême, où il a rassemblé une vaste collection de fossiles, dont les fameux trilobites. Ami des Tchèques à qui il a fait don de sa collection, qui se trouve aujourd'hui au Musée national, ceux-ci lui ont rendu hommage après sa mort en baptisant la colline de Barrande à Prague, d'après son nom. Joachim Barrande a cependant encore de la famille à Saugues qui entretient sa mémoire, dont Paul-Henri Barrande, qu'on écoute au micro d'Anna Kubishta.
Et Joachim Barrande était mon arrière-grand-oncle, puisqu'il est mort sans descendant.
Quel est un peu l'héritage de Joachim Barrande en France au niveau de la paléontologie ?
À l'heure actuelle, il y a la reconnaissance de Joachim Barrande n'est pas encore, sa renommée n'est pas encore très connue en France. Cependant, c'est sa ville natale qui a fait plusieurs cérémonies, en particulier une pose de stèle, à l'occasion de son bicentenaire. Une pose aussi d'une plaque sur sa maison natale et la nomination d'un collège à Saugues, dans sa ville natale, collège Joachim Barrande.
L'arrivée ou la venue de Joachim Barrande en Bohême est très liée à l'histoire. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous rappeler comment est-ce qu'il est arrivé à Prague ?
Il est arrivé à Prague uniquement à l'occasion du départ de Charles X de la France, puisqu'il était précepteur du petit-fils, le comte de Chambord. Donc il a suivi le roi et son élève en Bohême.
Mais il est resté en Bohême, alors pourquoi est-ce qu'il est resté en Bohême ?
Il est resté en Bohême, à l'origine il avait été... il s'occupait du tracé d'une voie de chemin de fer. Et c'est en traçant cette voie de chemin de fer qu'il est tombé sur un gisement de fossiles. Et on peut dire que sa vocation a débuté à ce moment-là.
Est-ce qu'il a continué à entretenir des liens avec la France ?
Il revenait régulièrement en France et il était en relation avec tous les scientifiques de l'époque, aussi bien en France qu'en Angleterre ou dans le monde entier.
Alors on imagine en plus à l'époque, ça devait être compliqué, il n'y avait pas les avions, les trains commençaient seulement à être construits. Et d'après ce qu'on a pu voir pendant ce colloque, c'était quelqu'un de très travailleur, qui travaillait énormément. Est-ce que vous pouvez un petit peu décrire son quotidien ?
Son quotidien, c'était le terrain essentiellement et sa petite chambre à Prague où il entassait des fossiles, où d'ailleurs sa gouvernante se plaignait toujours du bric-à-brac qui pouvait régner dans son appartement.
Alors c'est intéressant puisque il a aussi été en contact avec énormément de Tchèques très connus comme Jan Neruda, puisque une de ses gouvernantes c'était la mère de Jan Neruda,
oui.
Et alors il a aussi appelé des fossiles d'après des noms tchèques. Visiblement il y a eu une espèce de petite bisbille, ou en tout cas il a protesté officiellement contre une décision de l'Association internationale de géologie à l'époque, qui voulait décider d'une certaine manière de désigner les fossiles.
Tout à fait, oui. Il donnait des fossiles un petit peu, soit avec des noms très sympathiques, soit avec des noms un petit peu contre ses détracteurs.
C'est très symptomatique de l'amitié aussi qu'il entretenait finalement avec son pays d'adoption ou avec les gens, avec les Tchèques, puisqu'il a donné des noms tchèques.
Il a donné des noms tchèques et il était extrêmement fidèle à la France et à la Bohème, qui connaissait le tchèque, le russe, je crois, l'allemand, enfin... Il parlait beaucoup mieux que moi.
Je suppose que ces œuvres sont étudiées par tous les géologues, disons les paléontologues à travers le monde.
Tout à fait, c'est des œuvres universellement connues qui sont réparties, ces ouvrages qui sont en petit nombre, qui ont été publiés en petit nombre d'exemplaires, sont répartis dans les grandes universités mondiales. Il avait fait don, d'ailleurs, il n'a jamais fait payer à qui que ce soit la publication de ses œuvres, qui était financée en partie par le comte de Chambord. Les ouvrages en eux-mêmes sont assez colossaux au niveau du volume, mais par contre la publication était, je crois, aux alentours de 200 ou 250 exemplaires.
Et alors il en a publié un par an quasiment à partir de l'âge de 60 ans.
Oui, il n'arrêtait pas.